France Inter.
Bienvenue sur Inter, le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une manif de salariés et de syndicalistes soutenus par leur direction, ce n'est pas banal. De l'ouvrier au grand patron, le groupe SEB se mobilise aujourd'hui contre une proposition de loi anti-PFAS. L'entreprise, vous l'entendrez, craint pour l'avenir de ses poils Tefal et des usines qui les fabriquent. À l'Assemblée, ne dites plus QAG, mais QAPM. Seul le Premier ministre répondra cet après-midi aux questions au gouvernement. C'est une expérimentation pour l'instant et un risque politique aussi pour Gabriel Attal. Dans ce journal aussi, une agence immobilière un peu particulière pour loger les plus précaires. En Russie, après Navalny, inquiétude pour un autre opposant en prison. Et le Japon décore du nouveau film d'Isabelle Huppert.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui, Sylvie Hoffmann, infirmière cadre à Marseille, héroïne du nouveau documentaire de Sébastien Lifshitz, Madame Hoffmann.
France Inter.
Il fabrique, Alexis, les célèbres poils et accessoires Tefal.
Un fleuron, une fierté nationale. Mais aujourd'hui, des salariés du groupe SEB vont quitter leur usine pour manifester devant l'Assemblée. Il devrait être plusieurs centaines en provenance des différents sites de l'entreprise. À leur côté, le syndicat FO pour s'opposer à une proposition de loi écologiste qui veut interdire les produits contenant des PFAS, ces polluants éternels que l'on retrouve notamment dans les revêtements des poils. Le texte doit être discuté demain dans l'hémicycle. S'il est adopté, 3000 emplois sont menacés chez SEB, selon la direction du groupe. La direction qui, ce n'est pas commun, soutient et même finance cette manifestation, Hugo Ossiou.
Une grève soutenue par la direction, ça paraît presque contradictoire. Pourtant, c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui au sein du groupe SEB. Riyad Boulassel, délégué syndical Force Ouvrière, l'assume complètement.
C'est un mouvement qui est même de concert. Aujourd'hui, c'est les politiciens qui forcent le patron à délocaliser. Et donc, oui, c'est cette démarche est de concert parce que la gravité de la chose et l'attaque, finalement, vient autant attaquer les intérêts du patron que les intérêts des salariés.
La direction du groupe remboursera le transport, la journée de manifestation et offrira même une journée de congé le lendemain. Stanislas de Gramont est directeur général du groupe SEB.
Nous sommes des entreprises responsables, nos partenaires sociaux sont responsables. On se préoccupe de la santé de nos collaborateurs, de la santé de nos consommateurs. Et donc, quand on a en face de nous des textes de loi qui effectivement sont assez dogmatiques, on se mobilise, on se met tous ensemble pour lutter contre ça.
Nicolas Thierry, le député à l'origine de la proposition de loi anti-PFAS, dénonce un coup de pression de la part des lobbies industriels.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais c'est assez classique, c'est un chantage à l'emploi, comme on l'a vu sur l'amiante, comme on l'a vu sur le chlordécone, comme on l'a vu sur le tabac dans les années 60. Donc c'est évidemment déplorable, mais c'est pas surprenant.
À la manifestation, on ne retrouvera que des syndicalistes de Force Ouvrière. La CGT a refusé de participer et soutient la proposition de loi anti-PFAS.
Et pendant que ces salariés de SEB manifesteront devant le Palais Bourbon cet après-midi, à l'intérieur, Gabriel Attal répondra, lui, tout seul aux députés pendant 45 minutes. C'est le début d'une expérimentation pendant un mois et demi. Les questions au gouvernement deviennent des questions au seul Premier ministre le mercredi. Quel que soit le sujet, les autres ministres ne prendront pas le micro. Voilà de quoi personnifier au maximum la fonction, Simon Le Baron, ce qui n'est pas sans risque politique.
C'est une stratégie à double tranchant, prévient un député LR. Car si les actes ne suivent pas, ce sont ces mots qui lui reviendront en boomerang. Gabriel Attal et ses experts en communication ne laissent rien au hasard. Si le Premier ministre utilise autant le pronom « je » plus de 140 fois dans sa déclaration de politique générale, s'il cherche à s'affirmer en tant que chef « mon ministre de l'économie », dit-il en parlant de Bruno Le Maire, c'est pour imprimer sa marque le plus vite possible, quelle que soit la durée de son bail à Matignon. Tout cela correspond au code moderne, très auto-centré, façon influenceur, observe une députée macroniste, mais sans résultat. L'excès de com n'est qu'un aveu d'impuissance. L'avertissement vient donc de son camp, comme des oppositions. Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, va encore plus loin dans la critique. Il y a dans la personnification du pouvoir une forme de simplification politique qui finit par abîmer la démocratie. Le Premier ministre est prévenu, ses séances de questions-réponses face aux députés seront musclé, et c'est exactement ce qu'il veut.
Pas de changement en revanche pour la séance du mardi. Là, tous les ministres continueront de répondre aux députés. Les habitants de Lyon n'en ont pas fini avec les crues dans le nord du département. Toujours en vigilance rouge. Il faut encore s'attendre à une montée très rapide et accélérée des eaux, prévient ce matin la préfecture. À Chablis, la rivière Serein a atteint son pic dans la nuit à plus de 2,40 m. Dans le journal de 8h, nous serons en direct de Tonnerre, autre commune touchée où les transports scolaires sont suspendus ce matin. 11 morts le 14 décembre 2015 en Alsace au procès du déraillement d'une rame d'essai du TGV Est. Le tribunal entend cette semaine 3 des 6 prévenus, les salariés présents ce jour-là dans la cabine de pilotage, dont ce cadre de la SNCF qui hier pendant plus de 6 heures à la barre a rejeté la faute sur les autres. Récit d'audience signé Jean-Philippe Degnaud.
Plein d'assurance, Francis s'exprime, infatigable, il explique, il justifie, un flot de paroles qui le mène à des contradictions, relève le tribunal. Dans ce TGV lancé à plus de 360 km/h, il fallait selon lui enclencher le système de freinage au kilomètre 400. J'ai accepté qu'on attende le kilomètre 401 et là, le pilote m'a dit qu'on allait pousser jusqu'au 402, expose Francis. Il n'y avait donc plus aucune marge de sécurité, relève le procureur. Francis acquiesce, mais tout ça, c'est la faute du cadre de Sistra qui dirigeait cet essai en survitesse. Il n'en faisait qu'à sa tête. La faute aux pilotes aussi. C'est eux qui m'ont poussé, insiste Francis, qui pourtant aurait dû exercer sur eux son autorité. Mais vous êtes le seul à raconter cette version, s'étonne la présidente. Vous vouliez vraiment que ça passe ric-rac ? C'est pas très cohérent. En résumé, vous donnez l'impression que c'est toujours la faute de tout le monde et jamais la vôtre, constate un des avocats des victimes. Si, je me reproche des choses, proteste Francis, sans reconnaître pour autant une part de responsabilité.
Et cet accident du TGV Est s'est bien produit le 14 novembre 2015 et non pas décembre. Quant au procès, il doit durer jusqu'au 16 mai. Du cannabis caché dans un Kinder Surprise et une fillette de 2 ans hospitalisée dans le coma pendant plusieurs jours. Ça s'est passé ce week-end près de Pau, nous raconte ce matin France Bleu Béarn Bigorre. L'enfant a trouvé au domicile familial de la résine de cannabis dans la petite boîte en plastique orange et l'a mastiquée. Les parents, consommateurs occasionnels, reconnaissent de la négligence. La petite fille se porte mieux ce matin. 2,5 millions de ménages français en attente d'un logement social, c'est un record. Dans le secteur privé, des prix devenus inaccessibles pour beaucoup de familles. Comment, dans ces conditions, loger les travailleurs pauvres ? À Toulouse, la métropole vient de lancer son agence immobilière sociale. Les propriétaires privés s'engagent à louer leurs biens moins chers, jusqu'à moins 45%. En échange, l'agence leur garantit les loyers et la remise en état des appartements, Claire Chaudière.
Face à la hausse vertigineuse des demandes de logements sociaux non satisfaites sur la métropole toulousaine, plus 70% en 10 ans, il devenait urgent, explique son président Jean-Luc Moudin, de ramener d'une certaine manière dans le parc social une partie du parc privé.
Je suis certain qu'il y a un gisement de logements qui n'est pas mobilisé. Des petits logements qui ne sont pas en très très bon état, que l'on peut remettre en marché en aidant les propriétaires.
Propriétaires comme Emmanuel, premier à s'être engagé avec la nouvelle agence immobilière sociale, niveau de loyer choisi pour son T3 de 60 mètres carrés, le plus solidaire, 45% sous les prix du marché.
L'ancien propriétaire le louait à 850 euros. Je suis à 470, donc c'est un peu moins de 50%. Moi, je trouve que voilà, il y a un effort à faire en termes de politique du logement.
Séduit par la philosophie du projet, Emmanuel s'est aussi laissé convaincre par la prime de plusieurs milliers d'euros promises, les déductions fiscales à venir, l'accompagnement aux travaux, y compris de rénovation énergétique, et la garantie de loyer apporté.
Ça me rassure, oui. Puis en fait, ils mettent tout en place pour que finalement, les personnes restent dans l'appartement longtemps et pour que ça se passe super bien.
Derrière l'agence, la puissance publique, donc, mais aussi des associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes en grande fragilité, ciblées par ce dispositif, les futurs locataires. Durée d'engagement minimale pour les propriétaires, 6 années consécutives.
Claire Chaudière, à Taïwan, cette nuit, un séisme d'une magnitude supérieure à 7, le plus puissant là-bas depuis 25 ans. Au moins 4 morts selon le dernier bilan, une soixantaine de blessés, plusieurs immeubles se sont effondrés. Pendant quelques heures, on a craint aussi un tsunami dans toute la région jusqu'aux Philippines. Mais l'alerte est finalement levée. 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. C'est ce que va proposer aujourd'hui l'OTAN à ses pays membres réunis à Bruxelles. L'Alliance Atlantique fête ses 75 ans en pleine tension avec Moscou. La Russie, où après la mort d'Alexei Navalny, c'est maintenant le sort d'un autre prisonnier politique, Oleg Orlov, qui inquiète les opposants. Co-fondateur de l'ONG Mémorial, aujourd'hui interdite, il purge une peine de 2 ans et demi de prison et son état de santé, Sylvain Tronchet, se détériore rapidement.
D'après ses proches, Oleg Orlov a perdu une partie de l'audition ces derniers jours. Le septuagénaire a pris froid à cause des incessants allers-retours entre sa prison et le tribunal qu'un juge lui impose. Oleg Orlov attend parfois de longues heures dans les cellules du tribunal qu'on l'extrait pour pouvoir prendre connaissance de son dossier, en vue de son procès en appel que le pouvoir serait pressé de voir se terminer rapidement. De fait, il ne mange quasiment pas de repas chaud et il a pris froid au point d'avoir des problèmes d'audition, vu qu'il rentre trop tard du tribunal tous les soirs. L'administration ne lui permet pas de voir un médecin, ce que dénoncent ses proches, tout comme le fait qu'il ne puisse avoir aucune conversation privée avec son avocat. Le cas d'Oleg Orlov vient une nouvelle fois souligner la dureté des conditions de détention en Russie. Le cas d'autres prisonniers politiques est actuellement inquiétant, comme Vladimir Karamurza ou l'activiste Alexandra Skotchilenko, régulièrement cités tous les deux parce qu'ils ont de lourds problèmes de santé et n'ont pas ou peu accès aux soins. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Il est 7h40, Isabelle Huppert sous les cerisiers japonais en fleurs.
L'actrice est de retour en salle aujourd'hui avec Sidonie au Japon, le nouveau long-métrage d'Élise Girard. On y suit une star de la littérature en promotion à Osaka. Un voyage délicat sur fond, oui, de cerisiers en fleurs. Une réflexion aussi sur le deuil, Corinne Pellissier.
Vous croyez aux fantômes ?
Au Japon, ils vivent partout autour de nous.
Lorsqu'elle arrive au Japon, Isabelle Huppert, Sidonie, voit son mari décédé partout, dans les rayons de la librairie où elle dédicace, dans la baignoire de sa chambre d'hôtel. Il lui arrive même de converser avec lui.
Antoine, mais c'est vraiment toi.
Sidonie.
Déroutant, mais pas si banal dans un pays où la culture et les croyances font la part belle aux fantômes. Celui d'un homme ici, disparu tragiquement dans un accident de voiture, dont le souvenir enveloppe depuis des années le personnage de Sidonie, submergé par le chagrin.
C'est presque irréel pour moi d'être ici.
Désormais pour elle, plus rien ne compte. Son défunt mari, incarné à l'écran par le comédien Auguste Dill, ni l'écriture, ni les voyages. Et c'est dans le film, à contre-cœur, qu'on la retrouve à Osaka pour une séance de promotion autour de la réédition de son premier livre, un peu Lost in Translation, comme Scarlett Johansson chez Sofia Coppola, dans un Japon dont elle ne maîtrise ni la langue, ni les codes.
Vous travaillez avec mon éditeur ?
Je suis votre éditeur.
Ah ! Le voyage sera pourtant grisant et réparateur, car pour revivre, c'est ce que nous dit le film, intime et délicat, il faut d'abord laisser partir les morts. Filmé sur le ton de la confidence, le résultat est doux, poétique, porté par des comédiens et un message qui sonne juste.
J'ai le cœur, je crois.
Sidonie au Japon, c'est donc au cinéma aujourd'hui avec Isabelle Huppert, qui est aussi cette année présidente du jury du Livre Inter. Elle sera l'invitée tout à l'heure du 13-14 pour dévoiler aux côtés d'Eva Bétan les 10 livres en lice et la liste aussi des 24 jurés sélectionnés parmi les 2500 auditeurs qui ont envoyé leur candidature. Encore raté pour vous, Nicolas, votre lettre n'a pas été retenue.
Raté. Merci Alexis Morel. À suivre Yael Gauss, Dominique Sonia de Villers.